Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Driss Ghali, qui est mon invité. Alors, Driss Ghali, vous faites l'événement en ce moment, parce que d'abord, vous avez publié plusieurs livres ces derniers temps, mais quand on va sur Amazon, vous avez deux livres qui sont en tête des ventes. « Français, ouvrez les yeux » et « La contre-histoire de la colonisation française ». Donc je me dis qu'il faut être fort, c'est plutôt rare d'avoir deux livres en même temps qui sont en tête des ventes. Et si ça fonctionne, c'est parce que vous ne maniez pas la langue de bois. Vous êtes intéressé, finalement, ces deux livres ont quelque chose d'assez similaire. C'est qu'est-ce que la France aujourd'hui, comment est perçue la France aujourd'hui par le Marocain que vous êtes. Et on ressent finalement une grande tristesse telle... Un ami d'enfance que l'on croyait être inséparable et qui vous déçoit de plus en plus et on s'éloigne parce que cet ami ne va pas vers le bon chemin et le droit chemin. Cet ami part en perdition, il rate de plus en plus de choses. C'est un peu ça finalement, non ?
C'est un ami qui ne veut surtout plus vous entendre, je crois que c'est ça. C'est un ami qui devient fou. Et qui s'enferme dans sa folie, puis qui est sûr d'avoir raison. Et il ne supporte plus les remarques mènes amicales. C'est un peu ce que je ressens par rapport à la France et à certains de mes amis français. C'est une espèce de fuite en avant et dans une espèce de... Ça ressemble presque à un phénomène sectaire, j'ai l'impression.
Qu'est-ce qui vous irrite le plus ?
Qu'est-ce qui mérite le plus ? Je dirais le renoncement des Français à être les gardiens de leur pays. C'est-à-dire les gardiens d'un pays d'exception, d'une tradition d'exception, d'un art de vivre d'exception, d'une langue d'exception qui est la langue française, d'une histoire d'exception. Moi, ce qui mérite le plus, c'est de voir que le Champ de Mars est devenu une zone de non-droit, que la Tour Eiffel est entourée de vendeurs d'amulettes ou de Tour Eiffel, le château de Versailles entouré de vendeurs d'amulettes venus d'Afrique. Alors, je n'ai rien contre les Africains, mais les musulmans, je suis moi-même africain, je n'ai rien contre les immigrés, je suis moi-même un immigré professionnel. Moi, je dis juste que le devoir des Français, c'est que Versailles sente l'eau de rose, c'est que la Tour Eiffel sente... Soit sûr que le Champ de Mars ne soit pas un lieu où on se fait violer par des migrants clandestins ou par qui que ce soit. Hein. C'est ça le devoir des Français, c'est qu'ils soient les gardiens de la France pour le monde. Le monde, dans un sens, l'humanité a des droits sur la France. Parce que la France est un cadeau pour l'humanité. Comme le Japon, je dirais la même chose du Japon. Si demain le Japon s'amusait à partir en vrille comme par la France aujourd'hui, à s'autodétruire, je dirais la même chose. Le monde a besoin de références culturelles, de civilisations rares comme le Japon, la France, je ne sais pas, je ne connais pas très bien, mais la Chine peut-être. Enfin, moi, je ne voudrais pas que dans 50 ans, on pleure la France comme on pleure les pyramides d'Angkor en Cambodge ou la grande civilisation des Mayas. On dira, ah, c'est trop tard, ah, ils se sont laissés aller... Et c'est ça le vraiment, je pense que le nœud de la question, c'est une métamorphose française qui a lieu sous nos yeux, que les Français assument sans le dire, et tout le monde trouve cela normal, et on fonce sur le mur avec le sourire et la conscience d'un peuple qui est sur les mauvais sujets. On parle de climat, on parle d'Ukraine, on parle d'éoliennes, on parle de retraite, alors que le sujet de base, c'est notre mutation. Il y a une mutation en cours et tout le monde s'en contrefiche, alors qu'elle a lieu sous nos yeux.
Quand je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous irrite le plus ? Je connaissais la réponse, mais je ne voulais pas vous orienter. Je ne voulais pas qu'on me reproche de vous orienter. C'est pour cela que j'ai posé cette question très, 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 très ouverte. Comment expliquez-vous aussi ce contrôle des élites, ce totalitarisme intellectuel, de la pensée unique, qui finalement est globalement accepté par une majorité de la population qui n'a pas le choix. Pourquoi ces élites ne veulent-elles pas le bien du peuple et de leur pays? Ces élites sont-elles déjà tellement mondialisées qu'elles n'appartiennent plus à la France?
C'est une question difficile puisque on tombe souvent dans le piège de dire le peuple est pur et les élites sont méchantes, sont impures. Au fait, le crime est collectif, nous sommes tous complices en fait. La France sombre parce que son peuple n'y croit plus et que ses élites n'y croient plus. Enfin, personne n'empêche les Français aujourd'hui, enfin, personne n'oblige les Français d'aujourd'hui, nous les oblige d'appeler leur enfant Jordan, Kylian, Kevin, Steve. Il n'y a pas une loi qui dit... voilà, c'est ça le nœud du problème. Personne n'oblige les enfants des Français à dire, je ne sais pas moi, « delivery », « do it yourself », à abandonner leur langue. Il y a un renoncement du peuple à sa continuité historique. Vous voyez juste l'évolution du menu des restaurants français, des bars. Sur 20 ans, c'est incroyable, l'appauvrissement des menus, l'irruption des burgers et des menus veggie, je ne sais pas quoi. Moi, je suis horrifié à chaque fois que je reviens en France de voir les menus et les vitrines avec que des mots en anglais. Comment une boîte comme une entreprise française, comme Accor, il n'y a pas plus français que la boîte Accor. Comment Hostel, enfin, voyez son site, le site web, d'accord. C'est les points rewards, pour dire les points de récompense, de fidélité. Enfin, c'est juste... il y a un renoncement collectif. Après, là-dedans, les élites, elles profitent de ça, hein, profitent de ce renoncement, de cette fatigue, et elles aggravent la situation. Elles aggravent la situation parce qu'elles démoralisent les Français et leur donnent des motifs de ne pas s'aimer. C'est toute la mystification, tout le mensonge autour de la guerre d'Algérie, de la Seconde Guerre mondiale, du colonialisme, où on a convaincu les Français qu'ils étaient des nazis et qu'ils étaient des génocidaires, des esclavagistes, le pire peuple au monde. Ce qui fait qu'un peuple déjà fatigué, un peuple déjà corrompu par le confort, les allocations, corrompu par le manque de morale, parce qu'on a abandonné la morale catholique, on n'a rien mis à la place, rien. On a mis le marché.
Si, on a mis l'écologie.
C'est vrai. On a mis l'écologie qui est une morale qui n'est pas celle des hommes. C'est une morale capitaliste, c'est-à-dire on va consommer de l'éolien, c'est-à-dire qu'on vous oblige. Quel message subliminal des écolos français,
c'est soyez pauvres, vivez comme à l'ère des cavernes.
C'est peut-être oui, il y a ça, mais il y a aussi c'est consommer. Ne consommez plus de diesel pour consommer de l'électrique. Made in China, made in Japan, made in ne consommez plus de nucléaire, qui est made in France. Consommez de l'éolien. Il y a toujours un acte d'achat. C'est vraiment c'est les marchands du temple. Et puis, moi, je dis souvent, jadis, on disait l'orthographe, c'est la science des cancres ou des ânes. Là, maintenant, l'écologie, c'est devenu la science des ânes. C'est-à-dire, si on a raté sa vie, si on n'a pas d'idée, ben, on devient écolo parce que là, on est sûr au moins d'être admis dans les salons, dans les cercles. C'est comme chez nous, l'islamisme au Maroc. Hein. Si on a raté sa vie, on n'a rien à dire, eh bien, on devient islamiste et anti-israélien. Ça passe crème, on est sûr de ne pas commettre d'erreur, d'être dans l'air du temps, et puis c'est voilà, personne n'ira vérifier si ce que vous dites est. Enfin, très sincèrement, qui peut être contre la préservation de l'Amazonie? Nous sommes tous d'accord, il faut préserver l'Amazonie.
C'est-à-dire que les écologistes sont les islamistes blancs, finalement, sont les islamistes de l'Occident, hein, c'est ça.
Parmi eux, pas tous, hein, mais parmi eux. D'ailleurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Enfin, jamais vous trouverez un écologiste qui vous parlera de préserver un paysage. Préserver la beauté d'un paysage. Moi, le jour où un écolo enverra un courrier à Orange ou à SFR pour demander le démantèlement d'un pylône de téléphonie 3G qui gâche la vue sur une vallée de la Creuse, là, je deviens écolo et je m'inscris chez EELV. Pour l'instant, ces gens-là, ils sont en train de nous embêter sur le taux de protéines dans un carré de porc. Voilà, ils ne sont pas du tout... ce sont des religieux, ce sont des catholiques qui ne dégradaient. Parce que finalement, on est dans. Ils sont bons juste pour déclarer des hérétiques. Voilà, ils déclarent des hérétiques. Ils s'immiscent dans le régime alimentaire des gens, comme le faisait la religion avant, comme le fait très bien l'islam avec le ramadan. Les écolos, ils veulent qu'on soit vegan, qu'on mange responsable, qu'on mange dans des gobelets en plastique recyclables. Ils veulent interdire les pailles. Ils veulent. Enfin, vous voyez, on est dans un phénomène religieux qui n'a rien de scientifique. Et au moins, l'islam, malgré tous ses défauts, comme le catholicisme, au moins, il permet l'essentiel. Enfin, il promet l'essentiel, c'est-à-dire la vie dans l'au-delà. Il promet le salut.
Oui, alors que là, maintenant, les écolos sont à même plus respecter les morts et pratiquement enterrer les gens en cendres, même plus la crémation, parce que ça consomme du CO2, et foutent les cadavres comme dans une fosse commune, quoi. C'est ça, c'est la fosse commune.
C'est ça, en fait. On a le pire, en fait, les écolos font l'assimilation. Ils font l'amalgame, voilà, l'amalgame du pire de l'Occident. C'est-à-dire, ils prennent le côté consumériste, c'est-à-dire, il faut que tu consommeras et tu fermeras ta gueule. Donc là, vous êtes obligé de consommer de l'éolien, du solaire, des moteurs hybrides électriques. Ça, ils l'ont décidé et vous n'avez pas le droit de. Parce que la sobriété énergétique, ça, c'est pour quelques dingos, mais la réalité, c'est on change de crèmerie. On arrête le moteur diesel made in France ou made in Germany et on va vers le moteur hybride made in Elon Musk aux États-Unis ou made in China. C'est ça, en fait, vous avez un diktat de consommation. D'ailleurs, on a vu les écolos avec le vaccin. Hein. J'ai pas vu les écolos dire préservons les corps humains, principe de précaution. Là, on nous a mis du Pfizer et il fallait. C'est du scientisme, c'est le pire du scientisme, c'est-à-dire du capitalisme. Parce que le capitalisme ne sait plus quoi faire pour gagner de l'argent.
D'ailleurs, ce sont les mêmes écolos qui chipotent quand ils sont dans les supermarchés pour la moindre pizza ou la boîte de conserve, la composition, la transparence sur la composition, le taux de protéines et de ceci et de cela. Sinon, on va faire un procès à la marque de pizza, etc. Et à Pfizer, on dit, on voudrait juste la composition. Vous rejetez la science. On s'en fout de la composition.
Voilà, vous êtes pétainiste, fasciste, complotiste, conspirationniste. Vous êtes limite. Et là, je voulais dire, c'était juste ça, c'est-à-dire qu'on a pris le pire du capitalisme, c'est-à-dire dans son côté, tu consommeras et tu fermeras ta gueule. En plus, tu consommeras cher. Hein. Avec l'inflation maintenant, c'est tu payes cher et tu fermes ta gueule. C'est ça le message aujourd'hui subliminal qu'il y a dans le capitalisme mondial, ce que nous appelons le libéralisme. C'est tu payes cher, tu fermes ta gueule. Les écolos transportent ce message-là en l'enrobant dans la préservation de la nature. Et en plus, ils ont pris le pire du catholicisme. C'est-à-dire un catholicisme qui est dénué de la promesse de la vie éternelle, de tout humanisme, de tout pardon. Ils ne pardonnent rien. Hein. Ils ne pardonnent rien, ils sont habités par la haine. Mais c'est l'aspect sectaire. C'est-à-dire, c'est des gens qui vous disent on ne va même pas discuter avec vous parce qu'on sait ce que vous pensez. C'est un refus du débat. On est dans le pire du pire des époques. C'est l'Inquisition. Et en fait, on a pris on a raclé le fond de. Des bouteilles, vous savez, on a pris le catholicisme, le capitalisme, et on a mis ça ensemble, et ça donne l'écologie qui se dit moderne. En fait, ils n'ont rien de moderne. Ce sont des ligues de d'intolérance. J'exagère évidemment parce que je mets tout le monde dans le même sac, mais je ressens réellement ça dans l'époque.
Est-ce que vous voyez cela encore plus clairement, puisque vous êtes marocain, et tous ceux qui connaissent le Maroc savent que c'est l'un des rares pays au monde, il y en a d'autres bien sûr, mais je dis l'un des rares, il n'y en a pas beaucoup finalement, qui a su concilier l'évolution dans les valeurs, dans la tradition et dans l'hypermodernité. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution finalement vers la modernité en prenant ce qu'il y a de meilleur, sans éviter le pire, tout en conservant une identité et une fierté très forte. Et donc vous pouvez voir cette différence quand vous faites la comparaison entre les deux pays.
Au fait, le fait aussi de vivre au Brésil depuis 12 ans m'aide beaucoup à mettre des lunettes.
Donc vous avez les trois, vous voyez les trois appartements, quoi, ouais. Finalement, hein, c'est ça.
Oui, parce que le Brésil, c'est une version avancée de l'Europe. Hein. C'est l'extrême Occident. On parle d'extrême-Orient pour parler de la Chine et tout ça, quoi, le Japon, mais il y a aussi l'extrême Occident, c'est les États-Unis et l'Amérique latine. On est vraiment en avance sur vous d'un point de vue géographique, hein, c'est naturel. On est à l'extrémité du globe terrestre, mais aussi on a une avance sur la dégradation. Vous voyez l'insécurité brésilienne, bah, on y arrive en France doucement. Vous voyez l'extrême cynisme des classes politiques brésiliennes. On y arrive avec M. Macron. M. Macron, il nous aligne sur le pire de la classe politique brésilienne. C'est-à-dire, il se contredit dans la même journée, il change d'avis et il l'assume. Il est toxique, tout ce qu'il touche, il le pourrit. Vous avez comme lui, M. le maire, enfin, toute cette classe politique, de Sarkozy en passant par Hollande, cette classe politique qui est composée d'incompétents, mais tellement sur deux, et qui sont investis par des oligarchies. Le Brésil est un pays d'oligarchie. Et nous sommes devenus en France prisonniers d'oligarchie. Nous avons nos oligarques, nous aussi. Et ils décident pour nous qui sera président. Et je pense que. Alors, vous me posez la question par rapport au Maroc. Moi, je serais un peu moins positif que vous sur le Maroc. Je pense que le Maroc, effectivement, il a fait son marché hein, dans certaines valeurs occidentales, mais il n'est pas du tout sorti d'affaire. Il n'est pas du tout sorti d'affaire. D'un point de vue de développement, d'un point de vue moral, nous avons un seul exemple. Nous butons encore sur la corruption. Malgré tous les TGV, les trains, les barrages, les gratte-ciel, les investissements mirobolants qui ont été faits au Maroc,
Oui,
nous
parce que
n'arrivons toujours pas à soigner cette maladie qui nous bloque.
contrairement à la France, qui est un pays exemplaire dans ce domaine où on le sait, il n'y a aucune corruption, dans les élèves qui sortent des grandes écoles, les attributions de postes, les conseils d'administration, les ventes de nos centrales nucléaires à l'étranger, quand on brade toutes nos industries, quand on donne au fonds de pension de la CIA des entreprises stratégiques françaises, c'est vrai que ça ne se passerait pas en France. Hein. Alors après, bon. Eh oui, vous avez compris que c'était une boutade, hein, voilà, évidemment.
Bien sûr, non, mais en fait, vous êtes en train de changer. Et moi, pourquoi j'écris ces livres, notamment Le Français ouvrez les yeux, hein, qui lance sur la métamorphose morale, physique, économique du pays culturel, c'est de dire attention, vous allez devenir comme un pays du Maghreb. Et c'est pas et vous ne le méritez pas, parce que une fois que si la France perd l'honnêteté, la rigueur, qui était quand même un beau legs du catholicisme maintenu par la République quand elle était encore digne, décente. Si vous perdez ça, vous aurez tout perdu. Vous voyez l'Algérie, hein, il y a du pétrole, il y a du gaz, mais rien ne se passe. Vous voyez la Libye. Un pays, ce sont ses hommes et ses femmes. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une descente aux enfers de la France, mais croyez-moi, le Maroc est beaucoup plus corrompu. Au Maroc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre sans mouiller, je parle en brésilien, sans donner de bakchiche. Vous ne pouvez pas vivre sans donner de bakchiche. Vous êtes obligé de vous salir. En France, je ne connais plus la France depuis un bon moment. Ça fait 10 ans que j'ai quitté le pays. En France, vous avez quand même, pour mener une vie, je dis pas pour faire, je ne parle pas en tant que patron du BTP qui va faire des ronds-points ou quelqu'un qui va acheter une chaîne de télévision ou un marché public. Je dis juste que au Maroc, pour vivre en tant que retraité, vous ne pouvez pas vivre sans donner des
Je
bakchichs. Moi,
suis
je trouve ça
d'accord.
salissant.
Vous avez envie de gagner un peu de temps dans une administration, ok, on donne un petit bakchiche, c'est comme ça. Alors qu'en France, vous ne pourrez même pas
Oui, mais
gagner de
bon.
temps. C'est même plus la question
Non,
de faire son passeport ou sa carte d'identité. Vous avez 6 mois d'attente. Donc, à la
Ouais,
limite,
mais
qui va
je vous
donner de
rejoins,
leçons à
mais...
d'autres? Qui va donner de leçons à l'autre?
Non, mais la question, ce n'est pas donner des leçons, c'est de dire, c'est que moi, je suis pour la diversité, la vraie diversité. Hein, ce n'est pas celle de Pap Ndiaye et de Rokhaya Diallo. La vraie diversité, c'est que la France soit un pays exemplaire et que le Maroc soit un pays tel qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous avons un alignement de la France sur les pays du tiers-monde. Et nous, les gens du tiers-monde, nous aimons la France parce qu'elle était exemplaire. Elle a toujours, enfin, tous les pays ont une part d'ombre. Hein. Quand la corruption devient un mode de vie, se crée l'insécurité juridique. C'est-à-dire que votre voisin, il veut, lui, par exemple, augmenter un étage. Il veut construire un étage de plus. Et il ne veut pas aller, il ne veut pas terminer de construire. Parce qu'il sait qu'il ne l'aura pas. Eh bien, il va construire la nuit. Vous allez demander à la mairie, à la préfecture, d'envoyer un gars pour voir. La préfecture ou la mairie va vous dire, tu es qui? Tu es le fils de qui? Qui t'a recommandé? Tu vas donner de l'argent à la préfecture, à la mairie. Bon, j'exagère, je ne généralise pas, mais croyez-moi que ça se passe. Votre voisin, il va donner de l'argent plus que vous. Parce que quand on est dans la corruption, c'est la loi du plus fort. Si votre voisin a des connexions ou a de l'argent plus que vous, eh bien, il va acheter le silence des autorités. Résultat, votre voisin, il va vous couper le soleil. Il va vous mettre un étage en plus dans la figure. Et c'est là que on arrive dans des enfers. Le Maroc est un enfer dans un certain sens parce que même avec tout l'argent du monde, parce qu'à moins d'être le patron. Vous êtes le patron d'une ville, vous êtes le maire, effectivement, on va pas. D'où la course dans les mariages marocains, vous le voyez, et je décris la France de demain. Ce n'est
C'est
pas
ça qui
seulement
est
ce
intéressant.
n'est pas l'argent. Ouais, ce n'est pas l'argent qui se marie au Maroc seulement. Enfin, ça, c'est un phénomène bourgeois. C'est le pouvoir. Vous voyez des familles d'argent avec des familles de pouvoir. Le procureur, le vice-procureur avec le principal commerçant de la ville. Parce que le système est ainsi fait. Vous pouvez vous faire écraser, broyer par le système parce qu'il est fait pour la loi du plus fort. Et je n'espère pas ça pour vous, Français. Je pense que c'est pour ça que ça vaut la peine de donner sa vie aujourd'hui pour stopper la descente aux enfers de la France. Sinon, vous rentrez dans une autre galaxie et c'est le monde que fuient les Africains. Vous savez pourquoi les gens ils se jettent dans la mer en provenance de Côte d'Ivoire ou de Libye? Parce que chez eux, même avec de l'argent, mon père le disait quand il était vieux, il m'a dit, tu verras, au Maroc, même avec de l'argent, tu ne pourras pas vivre. Et pendant le Covid, par exemple, même avec tout l'argent du monde, nous étions bloqués à la maison. Nous avions des tanks dans la rue. Parce qu'une fois que vous avez une société qui est où tout s'achète, vous n'êtes plus traité comme un citoyen. Et puis, on peut vous enfermer chez vous. On nous a enfermés 5 mois chez nous au Maroc. Parce que pour le système, nous ne sommes pas des citoyens. Parce que le système, il voit clair en nous. Il sait qu'il a une population corrompue face à lui. Donc, il peut la traiter comme on traite des prisonniers. Nous avons été traités comme des prisonniers, comme des suspects. On dirait en France, vous avez eu le confinement. Mais le nôtre a été beaucoup plus dur. Et c'est pour ça qu'on est en train de jouer sur des choses extrêmement essentielles actuellement.
D'où cette. Vous êtes un lanceur d'alerte, finalement, sur l'avenir de notre civilisation, Driss Ghali. Français, ouvrez les yeux. Merci de nous en avoir parlé. C'est une radiographie de la France par un immigré. Voilà, vous l'avez présenté ainsi. Vous êtes marocain, vous vivez au Brésil. On se redonne un rendez-vous, cher Driss Ghali, dans les jours, les semaines qui viennent. On va parler, on va faire une autre interview pour parler de votre livre, de votre contre-histoire de la colonisation française, qui est lui aussi en tête des ventes. Hein. Voilà, pour une prochaine émission. Le livre de Driss Ghali, Français, ouvrez les yeux, il est numéro 1 des ventes en ce moment et c'est aux éditions L'Artilleur. Merci de nous en avoir parlé.